Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussmann.
Mesdames et messieurs, je vous ai déjà dit plusieurs fois que rien n'était plus ennuyeux que la chronologie et la façon dont on l'établissait, que ce soit pour l'Inde ou pour d'autres pays. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'histoire sans ancrage chronologique, de même qu'il n'y a pas d'histoire sans ancrage géographique. Et si l'on considère que l'histoire de l'Inde commence aux premières dates dont on soit assuré, l'histoire de l'Inde commence en 520 avant notre ère, car c'est le seul moment où nous ayons, c'est le premier moment à partir duquel nous ayons des certitudes chronologiques, puisque sur la date du Bouddha, on peut varier de 30 à un siècle. Cette partie de l'Inde qui entre dans l'histoire via la chronologie n'est pas celle dont nous avons parlé jusqu'ici, c'est-à-dire l'Inde gangétique, qui était à peu près cette région-là, la région à la fois que parcourait le Bouddha, c'est-à-dire l'est de l'Uttar Pradesh et le Bihar, et puis indirectement cette partie du Bengale déjà rattachée à l'empire du Magadha. La région dont nous allons parler est en fait la région du nord-ouest de l'Inde, dont on connaît un peu la chronologie parce qu'elle a été incorporée dans l'empire achéménide à partir de 520. C'est cette région que vous voyez là. Et plus précisément, le Gandhara sur la rive droite de l'Indus, Taxila, dont le rôle ici dans le nord du Punjab n'est pas clair, et puis toute la province de l'Indus, dont les sources concernant l'empire achéménide nous parlent un peu. De cette Inde du nord-ouest, qui est une Inde réelle, même si aujourd'hui c'est le Pakistan, les textes qui nous parlent du Bouddha ne nous en parlent absolument pas, puisque le Bouddha n'est jamais allé dans cette région et qu'il en est resté séparé par toute la région de Delhi, en gros, c'est-à-dire par près de 800 à 1000 km. Effectivement, les textes qui nous racontent la vie du Bouddha n'ont aucune raison de nous parler de cette région, qui à l'époque, encore une fois, était sous contrôle achéménide, ce qui ne la rendait pas moins indienne. Nous ne savons pas s'il y avait des liens importants entre cette région du nord-ouest de l'Inde et, disons, le Magadha en train de grandir. C'est probable, mais nous n'avons aucun témoignage qui nous le dise. On peut penser qu'il y avait du commerce, on n'en connaît pas son volume, car il semble bien que la monnaie n'ait pas existé à cette époque. Ce qui, par contre, fait l'unité et a fait l'unité de l'Inde, c'est l'unité de la présence dans ces territoires de brahmanes, de communautés de brahmanes, et donc d'une culture védique et post-védique. Ça, c'est tout à fait sûr, bien que nous n'en ayons pas de traces écrites véritablement, mais on sait que dans l'Inde du Bouddha, il y avait des brahmanes, et l'on sait que dans l'Inde achéménide et plus tard l'Inde d'Alexandre, il y avait des brahmanes, et que ça a continué assez longtemps, puisque si vous regardez l'exposition sur le Gandhara qu'il y a au musée Guimet, vous verrez sur les bas-reliefs gréco-bouddhique du Gandhara, de nombreuses figures de brahmanes. C'est ça qui fait l'unité de l'Inde à l'époque. En tout cas, c'est la seule chose que l'on saisisse. Du point de vue politique, il n'y a strictement aucune unité. La conquête du nord-ouest de l'Inde, disons de la région de Peshawar et de la région de Taxila, ainsi que celle de l'Indus, s'est faite très probablement sous Darius Ier, c'est-à-dire vers 520 avant notre ère. Et théoriquement, la domination achéménide cesse au moment où les troupes d'Alexandre franchissent l'Hindoukouch, c'est-à-dire en 327. C'est-à-dire que cette domination a duré deux siècles. Pendant deux siècles, le Gandhara et l'Indus et le haut du Punjab ont été des possessions d'un souverain de langue iranienne et qui résidait dans le Fars entre Persépolis et Suse. C'était un souverain qui se promenait beaucoup. Ne croyez pas que pour les Iraniens de l'époque, pour les Iraniens achéménides, le Gandhara a été une terre fondamentalement étrangère. C'était certainement une terre beaucoup moins étrangère que la Babylonie ou l'Égypte, qui parlait des langues très différentes des langues des souverains achéménides. Le dialecte vieux perse que nous connaissons par les inscriptions achéménides de Darius et de ses successeurs est encore très proche du sanskrit. Je veux dire, un sanskritiste, lorsqu'il voit un texte vieux perse en transcription latine, bien entendu, n'a pas beaucoup de mal à en comprendre l'essentiel. Et on peut songer qu'inversement, les souverains perses, et surtout leurs soldats, les souverains perses ne sont jamais venus jusque-là, mais leurs soldats et leurs hommes de confiance n'avaient pas grand mal à comprendre les langues parlées dans le nord-ouest de l'Inde, d'autant plus que celles-ci sont relativement archaïques, ont eu un développement plus lent, une usure phonétique moins poussée que dans la région du Magadha. Il n'y a pas beaucoup de différences de langue. Les grandes différences étaient évidemment des différences religieuses, puisque les Achéménides, c'est maintenant sûr, étaient mazdéens, on dit zoroastriens aussi de temps en temps, c'est-à-dire que leur grand dieu était Ahura Mazda, qui leur avait donné le trône, tandis que Ahura Mazda n'apparaît pas du tout dans l'Inde du Nord-Ouest, qui était brahmanique et à l'époque pas bouddhiste du tout. Le bouddhisme, à l'époque, s'il existait, si le Bouddha était déjà vivant, était tout à fait restreint au nord du Bihar, c'est-à-dire à la région entre la frontière népalaise et le Gange. Par ailleurs, merci. Par ailleurs, on sait comment l'administration achéménide fonctionnait. Il y avait une aristocratie mède et perse qui parlait donc une langue iranienne qui était le vieux perse. Le mède était peut-être légèrement différent. Et il y avait, dans cette aristocratie, il y avait les chefs de l'armée et une partie de l'armée, les contingents mèdes et perses de l'armée, mais l'administration civile était confiée à des scribes araméens polyglottes qui écrivaient entre eux en araméen, mais lisaient dans la langue du pays. C'est-à-dire qu'ils recevaient de leurs collègues scribes achéménides, par exemple de Babylone ou d'Égypte, une lettre en araméen, un rapport en araméen, qui avait été dicté par un satrape perse en vieux perse. Il recevait la traduction de ce discours du satrape vieux perse en araméen. Il le lisait pour eux en araméen, mais il le lisait tout haut au destinataire en vieux perse. C'est ce que mon collègue Gershevitch appelait l'allotographie du vieux perse. Et c'était de la même façon ce qui se passait dans le nord-ouest de l'Inde. Il y avait un commandant de garnison perse, avec peut-être des troupes perses, ce n'est pas sûr, et puis une administration achéménide qui fonctionnait en araméen, et de cela on a des témoignages sur postérieurs, puisque c'est cette écriture araméenne qui a donné lieu à l'écriture kharoshthi. On n'a pas fait beaucoup de progrès depuis 60 ans sur la domination achéménide dans le nord-ouest de l'Inde. Il faut dire que la plupart des documents que nous avons sont des documents grecs exploités depuis le XIXe siècle, en particulier Hérodote, mais pas seulement Hérodote, vous avez des fragments de Ctésias aussi, et que tout ceci a été exploré de façon minutieuse par une série d'érudits pendant 150 ans. Logiquement, comme je fais un bilan des nouvelles découvertes, je ne devrais rien dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même eu des découvertes. Il y en a eu très peu dans la région. Il y en a eu à Kandahar, mais il n'y en a pas eu proprement dites en Inde. Mais il y a eu beaucoup de découvertes à l'intérieur de l'Empire achéménide. Et on s'aperçoit que bien que ça ne soit pas tout à fait entré dans les mœurs, que le récit d'Hérodote, qui est très précis, très détaillé, est un récit fait a posteriori à partir de sources orales et qu'il a été en partie reconstruit. Et en particulier, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de ce que Hérodote nomme les nomes, N-O-M-E, et qui seraient des circonscriptions fiscales, dont la 20e serait la circonscription dite de l'Indus, Indush. C'est de là que vient notre nom Indus, qui aurait versé l'impôt maximum à la cour achéménide, c'est-à-dire 360 talents d'or, beaucoup plus que n'importe quel autre nome. On a longtemps cru que cette liste des noms était une liste des satrapies, et maintenant que nous avons davantage de documents, il apparaît que cette liste des noms est une liste qui a été refaite après coup par les Grecs, et que probablement elle n'a pas de réalité administrative. Ce qui, je vous renvoie là-dessus, sur au superbe livre de mon collègue Briand, Histoire de l'Empire perse, paru chez Fayard en 96, mais vous avez d'autres études qui confirment ce point de vue, donc celle de M. Thierry Petit, qui s'appelle « Satrape et satrapie dans l'Empire achéménide », et celle de M. Vogelsang, « The Rise and Organization of the Achaemenid Empire », paru chez Brill en 92. Le problème est celui-ci. Si on lit Hérodote, on a l'impression que l'Empire achéménide est un empire qui a été divisé pour raisons militaires et fiscales en 20 grandes satrapies, chacune sous un gouverneur nommé par le grand roi, comme disaient les Grecs, et chacune assujettie à un impôt ou à un don volontaire, la différence n'étant pas très grande. Quand on regarde maintenant les documents achéménides, et en particulier les listes de peuples dont nous en avons cinq, soit dans les inscriptions, soit sous les représentations des peuples, soit à Persépolis, soit sur les tombes de Naxirustam, ces 20 satrapies n'apparaissent nulle part. Nous n'avons que des listes de populations. Ces listes et des populations qui sont groupées dans un ordre géographique à peu près cohérent, alors que la liste d'Hérodote a un ordre géographique qui, lui, n'est pas cohérent. Ces listes varient parce qu'elles ne comportent que les peuples dont le souverain achéménide considère qu'ils sont ses sujets parce qu'ils ont envoyé des dons ou des impôts à Persépolis chaque année. Et leur nombre dépasse considérablement celui des satrapies, et dans ces listes, le Gandhara, c'est-à-dire la région de Peshawar, et ce que les textes appellent Hindush, sont séparés, même si, de même dans les contingents de l'armée, même si sur certaines représentations, les costumes et les dons paraissent à peu près identiques. C'est-à-dire que les administrateurs de l'Empire achéménide avaient parfaitement conscience que le nord-ouest de l'Inde était ethniquement hétérogène et qu'il y avait au moins deux populations, l'une sur la rive droite de l'Indus et l'autre, en gros, sur la rive gauche de l'Indus et jusqu'à la mer. Nous savons aussi, on le savait déjà un peu, mais on comprend mieux comment ça fonctionne maintenant, qu'en réalité, il n'y avait pas de satrapie, il n'y avait que des satrapes. C'est-à-dire que l'organisation de l'Empire achéménide était une organisation qu'on ne peut pas appeler fédérative, puisqu'au sommet, il y avait un roi tout-puissant qui était le grand roi, Darius et ses successeurs, et qu'il y avait une aristocratie dominante de Mèdes et de Perses, mais partout ailleurs, les achéménides ont gardé, d'une certaine manière, le système en place. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Empire achéménide, il y avait des rois, il y avait des populations qu'on dirait tribales et des populations autonomes. Tout ceci, rien de ceci exactement n'était unifié. C'était un conglomérat d'unités politiques diverses et le souverain achéménide de confier la gestion d'un certain nombre de ces populations à un satrape. Et ce satrape était appuyé par une garnison de soldats, principalement Mèdes et Perses. Mais à côté, les pouvoirs locaux et les coutumes locales continuaient. La seule chose qu'on demandait aux populations soumises, c'était l'envoi d'un tribut plus ou moins symbolique tous les ans à Persépolis, et surtout la fourniture de contingents de l'armée. C'est ainsi, par exemple, qu'Hérodote nous donne des listes très détaillées et sans doute elles réelles des contingents de l'armée perse qui a par deux fois tenté d'envahir la Grèce. Où nous retrouvons les Gandariens, les Indiens, avec la description de leur armement. Alors ce qui pose problème là-dedans, ce qui n'est pas clair, c'est le statut de Taxila. Le statut de Taxila qui n'est nulle part mentionné. Et il ne paraît pas que Taxila ait été le siège d'une satrapie. Il semble que le Gandhara, en tout cas, ait été rattaché au satrape de Bactriane. Évidemment, ces satrapes, selon les moments, avaient un pouvoir qui s'étendait sur un nombre varié de populations. D'abord, en fonction de l'étendue de l'Empire et de ses pertes, mais aussi probablement en fonction de la personnalité du satrape. Le satrape de Bactriane était un personnage important. C'est le dernier qui a résisté à Alexandre, comme vous le savez. Mais les limites exactes de son territoire ne sont pas connues. La plupart de mes collègues qui travaillent sur l'Empire achéménide considèrent que la région de Peshawar dépendait du satrape de Bactriane. Mais c'est une supposition parce que l'on n'a pas trouvé d'indices qui nous disent qu'à Taxila, par exemple, il y avait un satrape et personne ne sait où pouvait être le satrape ou le gouverneur qui dirigeait la grande, ce qu'on appelle l'Indouche, les Indiens du Bas-Sind, de la partie inférieure du cours de l'Indus. On ne sait pas où il résidait. Donc ça reste toujours une énigme. Un jour, on aura peut-être une inscription qui nous le dira. Quant aux 360 talents d'or que la satrapie de l'Indouche donnait chaque année au grand roi, c'est un chiffre qui a beaucoup attiré les savants, qui paraît tout à fait invraisemblable, pour deux raisons. D'abord parce que c'est une somme énorme, bien supérieure à ce que tous les autres noms d'Hérodote ont fourni à la trésorerie achéménide, mais surtout parce que depuis très longtemps, depuis que l'on suit l'économie indienne. L'économie indienne absorbe l'or et elle ne l'exporte pas. Il y a très peu d'or en Inde et l'Inde est un territoire qui importe de l'or encore aujourd'hui, maintenant. L'or est plus cher en Inde que partout ailleurs dans le monde. Cela nourrit, par exemple, une partie de la contrebande entre Dubaï et Bombay. Vous n'avez qu'à parler à un Indien et il vous parlera de l'or de Dubaï en vous disant ce qu'il en pense et quels sont les tarifs. Ceci dit, donc, il y a cet or a aussi donné lieu à toute une série de suppositions, y compris dans l'Antiquité. C'est comme ça qu'on trouve dans les auteurs grecs et latins l'histoire des fourmis qui, géantes qui creusent l'or et qui cet or qui est récupéré par divers moyens et ensuite envoyé à l'Empire Achéménide, qui a été aussi la base d'une histoire de Sinbad le marin. Évidemment, il y a là beaucoup de légendes. C'est une légende qui, en plus, est mal placée, puisqu'elle est placée chez les Dardes, c'est-à-dire dans cette région montagneuse-là, que ces Dardes ont été effectivement soumis au pouvoir achéménide. En tout cas, ils figurent dans la liste des peuples soumis, mais qu'ils sont nettement séparés de l'Indouche et du Gandhara. Donc, ce n'est probablement pas de là que vient l'or, bien que l'Indus roule un peu d'or. Il y a encore des orpailleurs dans l'Indus. Si l'histoire a un fondement, et après tout, il n'y a pas de raison d'en douter, on peut penser que c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire. Songez à la conquête de l'or en Amérique, c'est-à-dire la découverte d'un certain nombre de placers ou placers, qui, pendant quelques années, ont fourni beaucoup d'or. C'est le sujet de la ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Et puis qui, soudain, ont cessé de fournir de l'or, tout simplement parce qu'on avait extrait tout ce qu'il y avait là. Donc il est possible que, sous un souverain achéménide, on ait découvert un placer, qu'on l'ait exploité, et puis qu'ensuite, il se soit épuisé et que donc les choses se sont terminées là. Vous voyez qu'on ne peut pas dire grand-chose sur la domination achéménide. Il faut bien quand même se dire que ça a été quelque chose d'extrêmement important. Ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ainsi que la liaison entre l'Inde et la Méditerranée a été faite pour la première fois. Il est clair que l'Empire achéménide, qui s'étendait de l'Égypte et des côtes de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, avait des voies de circulation, et ce sont ces voies de circulation qu'Alexandre a empruntées et qu'ensuite le commerce international a emprunté. Je vous en dirai un mot dans un instant. Le contact, l'instauration de l'Inde comme partenaire, on ne dira pas d'un commerce, mais en tout cas de relations mondiales, ça date de l'Empire achéménide. À partir de ce moment-là, on peut considérer que l'Inde appartient à un système d'échange qui couvre non seulement toute l'Asie antérieure, mais au-delà l'Occident. Encore qu'en 520, l'Empire romain était loin d'exister. La seconde chose qui est sûre, c'est que l'Empire achéménide a laissé des traces qui seront utilisées par la suite en Inde. Les Indiens ont toujours eu une grande méfiance pour l'écriture. Comme vous le savez, les textes védiques n'ont pas été écrits et les textes normatifs refusent l'écriture, par exemple, dans les tribunaux, une preuve orale donnée par des témoins est supérieure à un contrat écrit. Par contre, les Achéménides ont abondamment utilisé l'écrit, en particulier parce que leur administration était héritière des royaumes mésopotamiens qui, eux, utilisaient beaucoup l'écriture. Les Achéménides ont inventé une écriture pour le vieux Perse, et, enfin, en tout cas, pas les souverains, mais en tout cas, leurs administrés, ils ont utilisé l'écriture élamite et ils ont surtout utilisé l'écriture araméenne qui est l'origine de toutes les écritures de type sémitique s'écrivant de droite à gauche comme l'arabe et l'hébreu. Et c'est cette écriture qui a été utilisée dans le nord-ouest de l'Inde et qui manifestement a donné naissance à la première écriture indienne, la Kharoshthi, qui doit apparaître soit à la fin de la domination achéménide, qu'on n'arrive pas très bien à dater, soit tout de suite après l'apparition d'Alexandre. En tout cas, il y a toute une série d'éléments qui permettent à M. Falk et à moi-même de dater la Kharoshthi d'avant l'Abrahami. C'est la première écriture indienne, c'est la première administration faisant appel à l'écriture, c'est la première économie faisant appel d'une certaine manière à la monnaie. On a découvert dans la région de Kaboul et on a découvert dans le Gandhara des trésors de monnaie remontant à l'époque achéménide, pas seulement des monnaies achéménides, d'ailleurs, il y a dedans des monnaies grecques, puisque comme Daniel Schlumberger l'avait montré en son temps, l'Empire achéménide finissant avait beaucoup utilisé le monnayage grec ou des contrefaçons de monnaie grecque comme monétaire. L'Inde a commencé à connaître la monnaie grâce aux achéménides. Et... elle a et elle a probablement commencé à connaître ce système d'administration où vous avez des populations autonomes qui se contentent de payer une fois par an le tribut aux souverains supérieurs. Elle a également probablement pris cette forme administrative des achéménides. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par les achéménides, alors que l'on n'en parle pas du tout dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire ne parlent que de l'invasion d'Alexandre, qui n'a duré que 3 ans, qui n'a rien mis en place. L'influence grecque, elle, est très postérieure à l'arrivée d'Alexandre. L'influence grecque date du moment où s'est établi en Bactriane un royaume gréco-bactrien et à partir du moment où les rois grecs de Bactriane ont décidé d'envahir l'Inde et pendant plus d'un siècle ont été maîtres de l'Inde du Nord. Alors là, ça a duré longtemps. Ça a duré en fait dans certaines régions et au Gandhara jusqu'au début du 1er siècle de notre ère, et là, ça a eu de l'importance. L'importance d'Alexandre, c'est surtout le fait que l'histoire d'Alexandre est devenue, dès son vivant, une légende parmi les Grecs, et que les compagnons d'Alexandre ont laissé des mémoires, et que ces mémoires ont été largement reproduit par la littérature latine et grecque des siècles suivants et que nous devons à ses compagnons d'Alexandre et aux géographes qui les accompagnaient des informations extrêmement fiables, malgré un certain nombre de différences, sur l'Inde du Nord-Ouest. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur la domination achéménide. Nous ne savons pas dans quelle mesure les achéménides contrôlaient encore le nord-ouest de l'Inde contrôler signifiant recevait encore un tribut annuel de cette région au moment de la conquête d'Alexandre. Nous savons que la Bactriane a tenu jusqu'au dernier moment. Ça a été la région, avec la Sogdiane, la région la plus difficile à conquérir pour Alexandre. On peut donc penser qu'ils avaient encore un certain contrôle, mais on n'en sait pas. Mais par contre, on peut voir de façon très claire qu'Alexandre a suivi... Alors, je vais voir si, où est-ce qu'on en est. Qu'Alexandre a suivi la route, une route sur laquelle je reviendrai, qui est probablement une voie déjà tracée par les Achéménides et qui va donner lieu, de quelques siècles plus tard, à la grande voie du Nord dont Ashoka nous dit qu'il l'a fait border d'arbres, qui a été utilisée par les Moroles. Vous trouvez encore en Inde et au Pakistan un certain nombre de colonnes isolées qui sont les colonnes marquant la distance de 1000 pas entre deux colonnes et que l'on connaît par Kipling sous le nom de Grand Trunk Road. C'est déjà cette route-là qu'Alexandre suit, c'est-à-dire que la route de communication a été établie par les Achéménides. Et celle qu'ils avaient reconnue et peut-être pas utilisée a été également suivie lors du retour d'Alexandre par Néarque. Si Néarque a voulu rejoindre Persépolis par la mer, Suse d'abord, pardon, par la mer, c'est que avant lui, Scylax l'avait fait sur les ordres de Darius. Donc l'héritage est tout à fait considérable. C'est cet héritage qu'Alexandre va donc trouver en 326, lorsque, quittant la Bactriane, après avoir conquis avec beaucoup de difficultés la Sogdiane, il avance vers l'Inde. On croyait jadis, et beaucoup de gens le croient encore, qu'en réalité, Alexandre avait pour ambition de reconquérir tous les territoires qui jadis avaient été en possession des souverains achéménides, et que c'est parce qu'il avait atteint la limite sur l'Iphasis, c'est-à-dire sur la sur la Satledj, que que ses troupes ont refusé de le suivre puisque le contrat était rempli. C'est une interprétation. Des livres sur Alexandre, il y en a des centaines. Ça fait rêver et les Occidentaux et les Orientaux depuis plus de deux millénaires. Cette interprétation est impossible à vérifier. Ce que nous disent les sources grecques, c'est que Alexandre voulait aller jusqu'au bout du monde. C'est pour cela qu'il voulait continuer vers l'Est. Et c'est aussi pour cela qu'il a envoyé Néarque par bateau, car il était ainsi persuadé d'aller jusqu'au grand océan qui, dans la conception géographique de son époque, ceinturait le monde. Et son armée, comme vous le savez, a refusé de le suivre. Alors, sur Alexandre, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Parce que, comme je vous l'ai dit, ses compagnons et les géographes qui l'accompagnaient ont laissé beaucoup de travaux. D'une certaine manière, l'expédition d'Alexandre en Iran et en Inde ressemble beaucoup à l'expédition d'Égypte de Napoléon. Plus exactement, on peut dire que l'expédition d'Égypte de Napoléon se modèle sur celle d'Alexandre, où une petite armée est censée capable de conquérir le monde, mais elle est accompagnée de des meilleurs savants de l'époque. Et ces meilleurs savants de l'époque font un certain nombre de relevés. Les premières cartes du monde à l'époque ont été très probablement, on ne dirait pas tracées, puisque ce n'était pas la même technique, mais en tout cas, les documents ont été recueillis par les compagnons d'Alexandre, ce qu'on appelait les bématistes, ceux qui mesuraient le nombre de pas dans les marches qu'il faisait et l'orientation, ce qui permettait d'avoir une certaine idée des pays. Quand Alexandre est à Bactre, il a manifestement une certaine idée de ce qu'est l'Inde. Il a une certaine idée puisqu'il convoque le roi Taxil. Avant de vous parler de ceci, ceci dit, hein, les documents directs émanant de l'époque d'Alexandre sont tous perdus. Et ils ont été, nous les connaissons de façon indirecte, par Ératosthène, qui est perdu lui aussi, mais qui a été réutilisé par des écrivains gréco-romains, c'est-à-dire des écrivains grecs d'époque romaine, et en particulier par deux grands compilateurs de niveaux très différents, Strabon et Arrien. Alors Strabon est un grand géographe, un des grands esprits critiques de son temps, et Strabon fait très attention à séparer les sources. Quand on lit Strabon, on sait que tel passage vient d'Ératosthène, tel passage vient d'Aristobule, qui est un historien pas très éloigné d'Alexandre, tel passage vient de Mégasthène, qui fut, après Alexandre, ambassadeur d'un roi Séleucide ou de Séleucos auprès de Chandragupta. L'autre, qui le complète et en même temps le double, c'est Arrien, qui lui aussi est un grec comme Strabon, qui a obtenu les plus hautes magistratures de l'Empire romain au IIe siècle. Il a fini comme proconsul de Bithynie. C'est un général. Et il a passé une partie de son temps, on ne sait pas si c'est lors de sa retraite à Athènes ou si c'est déjà du temps de son activité, à écrire une histoire d'Alexandre en grec, dont le livre 8, en grec attique, et dont le livre 8e est dans un dialecte ionien qui n'existait plus depuis des années, pour faire comme Hérodote. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a des ambitions beaucoup plus littéraires, qui lui aussi utilise des sources variées, mais lui ne le dit pas. Quand on peut comparer le passage de Strabon et celui d'Arrien, que Strabon est légèrement meilleur. Ceci dit, les choses vues par un indianiste, les documents que l'on trouve et dans Strabon et dans Arrien sont très très proches de ce que l'on trouve dans la littérature indienne dite ancienne, ou par exemple dans la littérature des premiers temps du Bouddha. Il y a effectivement des différences. Les différences tiennent à deux choses. La première, c'est que les compagnons d'Alexandre et Alexandre étaient relativement bien informés jusqu'à l'Indus. Et cela se voit à une chose. La première, c'est que la description est cohérente et que les noms des rivières sont des noms des rivières que l'on arrive à identifié assez facilement avec des noms d'époque védique. Par exemple, la rivière de Kaboul s'appelait à l'époque védique la Kouba. Ça donne en grec la Kophène, c'est-à-dire exactement le même mot avec une nasalisation qui est également une caractéristique des dialectes indiens de l'époque. Le swat, qui était la suvastu, donne la soastos. Le sind devient l'indus avec l'orthographe ionienne, c'est-à-dire puisque les ioniens ne prononçaient pas un S initial et le transformaient en... et n'avaient pas non plus d'aspiration initiale pour remplacer ce S. On a des toponymes qui sont tout à fait cohérents. Même chose pour Pushkalavati, qu'on connaît sous la forme de Pekela Otis, qui est exactement la forme à laquelle on aboutit, non pas à partir du sanskrit, mais à partir de la forme moyenne indienne de l'époque, Pukala Otis, qui donnerait Pukala Otis. Taxila, de même, c'est très proche du sanskrit Taxasila, et on l'explique très bien. Mais au-delà de Taxila, on a beaucoup de mal à comprendre, en tout cas moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment les noms des rivières sont faits. Alors ces rivières, on n'a eu aucun mal à les identifier puisque l'itinéraire est un itinéraire tout à fait classique. De la région de Pushkalavati, on passe sur un pont de bateau l'Indus, à deux jours de marche, vous avez Taxila, et puis ils passent chacune des rivières jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à l'Iphasis. Et donc, comme on connaît les rivières aujourd'hui, c'est peut-être plus simple de prendre ça. Comme on connaît les rivières aujourd'hui, donc après Taxila, ils passent très haut. Hein. Ils passent la Djeloum, la Tchenab, la Ravi, et ils arrivent ici, quelque part par là, jusqu'à l'Iphasis. Et puis ensuite, il repart. Une partie de l'armée, la plus grande partie de l'armée descend vers le sud, et une partie repart vers l'Iran par probablement la passe de Bolan, et une autre partie par la Gédrosie, où alors elle va avoir de gros, gros problèmes. Eh bien, comment on passe du nom ancien de la Djelam qui est la Vitasta à Idaspes, ce n'est pas très, très facile à comprendre. Comment on passe du nom ancien du Tchenab au nom donné par les Grecs, la Siknip, enfin la Kessines, alors que l'un des noms sanscrits le plus proche, c'est la Chiknim, enfin ça fait quand même pas mal de permutations de consonnes, très difficile. L'Hydraotès pour la Ravi, ça va mieux parce que on a un nom sanskrit qui est l'Iravati, et on voit très bien que les Grecs ont transcrit ce mot en mettant comme première partie le grec udor, qui signifie l'eau que vous avez dans le coton hydrophile, etc. Ça se comprend très bien. Et on a la même chose pour les populations. Alors, il y a évidemment un certain nombre de populations qu'on identifie sans mal, comme les Mallas, qui ne sont pas les malades de l'Est de l'Inde, les lutteurs. Musicanos, c'est quand même assez difficile. Sambos, à la rigueur, Chamba, ça peut être un nom partout, mais quand on voit un nom comme les Oxydraques. Alors, les Oxydraques, depuis le 19e siècle, tout le monde répète que ce sont les Kshudraka. Et effectivement, ça paraît aller très bien. Vous avez les Kshudraka et on a les Grecs ont cru reconnaître le mot oxus qui signifie rapide. Mais si vous réfléchissez un peu, Kshudraka, ça signifie petit. Vous croyez qu'il y a une population qui s'appelle les petits, les minables, les nabos ? Ça signifie tout simplement que à partir de la Djelam, les informations d'Alexandre reposent uniquement sur ce que les Indiens lui ont dit de ce qu'il y avait au-delà de la Djelam. Auparavant, ces informations sont fiables parce que ce sont des informations qu'il tient de l'administration achéménide depuis deux siècles. qui était là depuis deux siècles et qui connaissait bien les choses, donc qui avait eu le temps de comprendre le nom des rivières, de le transcrire, etc., et qu'il a peut-être même bénéficié de documents écrits. Ensuite, ça repose uniquement sur des on-dit. Et d'ailleurs, on trouve dans Arrien un certain nombre de... et dans Strabon, un certain nombre de paragraphes qui commencent « on dit à Alexandre que », par exemple sur les forces de Poros ou sur les forces du fameux Xandramès à Gramès, dont on parlera plus tard. Donc, si vous voulez avoir une idée de l'Inde du Nord-Ouest à l'époque, la meilleure chose, c'est de lire l'histoire d'Alexandre. Nous en avons deux traductions. C'est une histoire assez curieuse, cette histoire de traduction. Vous avez une traduction des françaises. Nous avons une traduction récente de Pierre Savignel qui donne toute l'anabase, c'est-à-dire toute l'histoire d'Alexandre, y compris l'Inde, enfin, la conquête de l'Inde et le retour à Persépolis, avec le livre 8, qui lui est en dialectonien, et qui... qui est traduit dans le livre de Savinel et qui fait en outre, a fait bien longtemps avant, a eu le privilège d'une édition à partir des manuscrits et d'une traduction en français par l'un des plus grands hellénistes de son temps, qui était Chantraine. Donc vous avez un très très bon texte d'Arrien. Et Chantraine, bien qu'il ne le dise que dans une note, a bénéficié pour ses notes de l'aide de deux grands indianistes de l'époque. Le premier, c'est Louis Renoux, qui n'était pas historien, mais qui connaissait très très bien les textes védiques. Et le second, qui n'apparaît pas dans les notes de Chantraine, mais qui a probablement donné quelques indications parce que c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup et il a travaillé toute sa vie là-dessus, c'était M. Jean Filioza, qui lui connaissait tout. Donc le texte de Chantraine et ses notes sont excellents. Les notes de Savinel, elles sont absolument nulles. Donc on suit le trajet d'Alexandre, et on regarde sur une carte dans un atlas scolaire. Par là, il y a une ville qui s'appelle Multan. Alors, ça doit être telle ville, ça doit être la capitale de Mousikanos. Et c'est donc, et entre parenthèses, vous avez Multan ou Jalalpur, qui sont des noms tout à fait récents, sans aucune preuve, et qui sont parfois mal orthographié, que Multan étant orthographié Maltoun. Vous voyez ce que ça peut donner. C'est le grand problème toujours de l'édition des textes grecs consacrés à l'Inde depuis le XIXe siècle. Ces textes sont très bien connus. Il y en a eu des éditions standards par un Britannique qui s'appelait Mac Crindle et qui a repris tous les textes consacrés à l'Inde chez les auteurs grecs et latins, qui en a donné une traduction anglaise correcte et des notes qui, pour l'époque, étaient correctes parce que Macrindle, je crois, avait vécu en Inde. Mais beaucoup de traductions sont faites uniquement par des latinistes et beaucoup uniquement, ou des hellénistes, qui ne se préoccupent pas beaucoup de la vie des spécialistes locaux. Il y a deux exceptions à ça. Vous avez la superbe édition et traduction de l'anabase d'Arrien par les Allemands, dont le commentaire indien a été fait par un très grand savant qui s'appelle Oscar von Inhuber et qui est probablement, du point de vue indien, actuellement l'édition la plus à jour. Et puis, vous avez toute une série de travaux qui ont été faits pendant 40 ans par Jean Filioza, et qui ont culminé par un livre écrit en commun avec Jacques André, le latiniste professeur à Sorbonne, sur ce que les Romains savaient de l'Inde. Et vous avez ainsi en allemand et en français véritablement l'état de la science et l'état de la connaissance de l'Inde par de bons savants spécialistes de l'Inde au moment où le livre a été publié. Par contre, on a des choses parfois très très bizarres. Alors, dans les choses très très bizarres, il y a un article sur l'une des rares choses qui soit vraiment récent sur la connaissance que les Grecs ont pu avoir de l'Inde et sur Arrien. C'est un article d'un dénommé Bosworth qui a été publié dans la Classical Philology en 1996 et qui s'appelle « The Historical Setting of Megasthenes Indica », donc le huitième livre d'Arrien qui reproduit une partie du récit de Mégasthène qui fut l'envoyé qui, d'après les livres classiques que nous avons, les manuels, fut l'envoyé de l'empereur Séleucos Ier à la cour de Chandragupta à Pataliputra. Ce texte existe une partie de ce texte de l'Indica. Les Indicas sont perdus. La grande partie est reproduite dans le livre 8 de l'Anabase d'Arrien et également dans Strabon, avec de légères variantes. Et le propos de M. Bosworth, c'est de montrer que le texte commence par une restitution qui date de Schwambeck au XIXe siècle, qui aboutit à faire dire au texte que Mégasthène sait, vous voyez, les auteurs grecs citent, hein, Mégasthène sait qu'il dit qu'il rencontra Chandragupta, le plus grand roi de l'Inde, et aussi Poros, qui était encore plus grand que lui. Excusez-moi, je dis... Le texte tel qu'il est exactement corrigé dit « Mégasthène dit qu'il rencontra Chandragupta, le plus grand roi des Indiens, qui était encore plus grand que Poros. » Et ceci résulte d'une légère correction, Poros. Et comme tout bon philologiste, M. Bosworth préfère la Lectio Difficilior, ce qu'il fait traduire que Mégasthène dit qu'il rencontra Chandragupta, le plus grand roi de l'Inde, et aussi Poros, qui était encore plus grand que Chandragupta. Et pour prouver cela, il dit qu'il n'y a qu'à regarder la carte. On va prendre une autre. Il n'y a qu'à regarder la carte, c'est M. Bosworth qui le dit, et que Poros était manifestement beaucoup plus grand que Chandragupta, parce que Chandragupta ne contrôlait que cette partie de l'Inde, vous voyez, à peu près, jusqu'à l'ouest de Delhi, tandis que le royaume de Poros, qui était un tout petit royaume au départ, on va essayer. Non, c'est pas. Ça me donne deux secondes pour respirer. Voilà. Le royaume de Poros, au départ, allait de l'Agelum jusqu'à la Tchénab, c'était ça. Quand, après la bataille de l'Hydaspe, Alexandre lui a confié tous les peuples soumis, et donc son royaume s'étendait sous tout le nord du Punjab. Alors, vous comparez ça avec l'empire du prédécesseur, probablement le Chandragupta, qui partait du Bengale, comprenait tout le nord de l'Inde, comprenait probablement la région de Delhi, et nous n'en savons rien, mais on peut le supposer, commençait déjà à contrôler une partie du sud de l'Inde. Mais la philologie vous prouve que Poros était plus important que Chandragupta. Voilà. Alors, c'est très britannique, ça. C'est à la fois très helléniste, on ne fait pas appel aux Indiens, mais c'est également très britannique. L'édition d'Arrien, du livre de l'Inde d'Arrien par Chantraine, qui est une édition faite à partir des manuscrits de la Bibliothèque nationale avec une traduction remarquable et encore une fois des notes de renom, c'est pas rien, n'est pas cité une seule fois. Les seuls auteurs cités sont des auteurs britanniques. C'est très, très, très... Ça continue comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, donc, vous voyez ce que cela donne. Et ça pose un certain nombre de questions. Puisqu'on parle d'hellénocentrisme, parlons d'hellénocentrisme des Grecs. Ce que les Grecs ont connu de l'Inde, ce qui a été transmis à l'époque romaine de l'Inde, ça a été essentiellement des indications qui se trouvaient chez les historiens d'Alexandre. C'est-à-dire le traité d'Arien sur le nord-ouest de l'Inde et la partie du livre de Mégasthène qui était relative à Pataliputra. Nous n'avons strictement aucune indication remontant à l'époque grecque sur la région allant de Delhi, disons, jusqu'à Patna. Or, il se trouve qu'après la conquête d'Alexandre, évidemment, ces régions sont devenues indépendantes, mais très rapidement, dès 313, c'est-à-dire 20 ans après la conquête d'Alexandre, elles ont été au pouvoir des Mauryas, qui nous ont laissé indirectement quelques témoignages de leur présence, puisqu'il y a une inscription d'Ashoka à Kandahar, ici. Mais que surtout, elles ont été entre 200 de notre ère, en gros, hein, 175-200, et 200 avant notre ère, et 50 de notre ère, au contact et au pouvoir des pouvoirs grecs de Bactriane. Et que donc, il y a eu pendant deux siècles une connaissance intime des Grecs, de locaux, en tout cas des Grecs de Bactriane, de ce qu'il y avait en Inde, puisqu'ils en étaient les rois, et qu'ils en extractaient, je ne sais pas si c'est le mot français, mais en tout cas c'est le mot anglais, le tribut. Et ça ne s'arrête pas là. Au 1er et au 2e siècle, il y a une connaissance intime de l'Inde aussi par les commerçants romains. Tout ceci a quasiment disparu. On a quelques bribes chez Pline l'Ancien, quelques bribes chez les auteurs latins. La base de la connaissance que les Grecs et ensuite, à leur suite, les Européens du XIXe siècle ont eue sur l'Inde, c'est la conquête d'Alexandre. Ça vous prouve à quel point cette histoire était devenue une légende déjà du vivant d'Alexandre et plus encore ensuite. Ce qu'il y a eu après n'intéressait pas les Grecs. Ça vous donne la loupe avec laquelle vous devez examiner les renseignements qui sont dans Arien et que vous pouvez lire facilement en français. Ceci dit, encore une fois, l'ensemble des renseignements sont loin d'être faux. Ils avaient peut-être une mauvaise oreille pour les noms propres, mais ce qu'ils voyaient, ils le comprenaient assez bien. Et l'une des choses qui est très curieuse, qui nous renvoie directement au cours de la semaine passée, c'est que le livre 8 d'Arien, qui s'appelle l'Inde, comporte au départ une partie géographique, en partie empruntée à Ératosthène, mais qui est directement fondée sur Ouidir également, si j'ose dire, et ça commence ainsi. Mégasthène dit qu'il y a 118 peuplades en Inde. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose pour la date du Bouddha. 118, c'est 100 plus 18. Évidemment, il y a bien plus de 118 peuplades en Inde, ne serait-ce que parce que les historiens d'Alexandre, dans cette petite partie du nord-ouest, en nomment à eux seuls une cinquantaine. Évidemment, 118, ça n'est rien. C'est un chiffre traditionnel. De même que ma collègue Anne Vergati m'a signalé qu'il y a 18 clans Rajput, ou 36, c'est-à-dire 18 fois 2. Ce sont des chiffres traditionnels que l'on apprend à reconnaître seulement d'une certaine manière par hasard quand on est intrigué par le fait que le chiffre 18 revient tout le temps alors qu'il n'a aucune justification, disons, numérologique. Voilà. Donc, on parlera un tout petit peu d'Alexandre la fois prochaine et de l'état de l'Inde qu'il trouve. Il n'y a véritablement rien de nouveau, mais puisque je suis le cours de l'Inde, il suffira que j'en parle une dizaine de minutes. Et pour le reste, si cela vous intéresse, vous achetez la Budée d'Arien et vous en saurez beaucoup. En plus, ça se lit très bien. Voilà, 5 minutes de repos.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.